Radio Okapi.
Mesdames, Messieurs, voici les sommaires de votre journal. Évasion dans la nuit de ce dimanche d'une dizaine de prisonniers de la prison du parquet de Beni au Nord Kivu. Les enquêtes sont en cours et la recherche des évadés a commencé après que la police a eu à empêcher que cette maison carcérale se vide de sa population. 3 millions de dollars pour la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de la Tchopo. Le gouverneur de cette province salue cet apport du Royaume de Belgique à travers le ministre conseiller à l'ambassade du Royaume de Belgique à Kinshasa en mission dans la province de la Tchopo. Albert Kyungu, secrétaire exécutif du CRANC au Kasaï Central, est notre invité. Il revient sur les ateliers organisés par cette plateforme à l'intention de la jeunesse sur la citoyenneté responsable avec l'appui de l'Institut international républicain. Vous les suivrez avant la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la fréquence de la paix. Commençons d'abord par ce message du ministère des Affaires étrangères qui porte à la connaissance du public dans un communiqué signé hier samedi 28 novembre que la vente des formulaires des demandes des passeports ordinaires biométriques démarre demain lundi 30 novembre dans les différentes agences des Sofibank de la ville province de Kinshasa. Ce formulaire est personnel et non collectif. L'accès dans la salle des captures sera conditionné par la présentation du bordereau émis par la banque. Rendons-nous à Beni, au Nord Kivu, où 11 prisonniers se sont évadés dans la nuit de ce dimanche à la prison du parquet de Beni. La police, qui est vite intervenue, a empêché que cette maison carcérale se vide. Pendant ce temps, les enquêtes sont en cours et la recherche des évadés a commencé. Marc Marofimbo pour des précisions.
La police de la ville de Beni indique que c'est aux environs de 10h du matin, sous une pluie qui tombait sur la ville, que les prisonniers ont escaladé le mur trouant les plafonds en triplex du côté de l'extérieur. Ces derniers ont utilisé leurs pantalons et autres habits résistants pour se faire une corde ayant servi pour descendre du plafond et s'échapper. Alertés, la police est vite intervenue pendant que ces prisonniers descendaient l'un après l'autre car leurs cordes en habit ne pouvaient pas supporter le poids de plusieurs personnes à la fois. Ce matin, les responsables de la maison carcérale du parquet de Beni se sont rendus au lieu de l'incident pour constater le fait. Sur les 41 locataires de cette maison carcérale, 11 ont réussi à s'échapper. La police de son côté annonce que la recherche de ces évadés se poursuit car ce sont des personnes bien connues dans le milieu, indique le commandant de la police de la ville de Beni. Le colonel François Kabemakosa demande également aux responsables de cette maison carcérale de remplacer ces triplex vieillis car ce n'est pas la première fois que les prisonniers en profitent pour s'évader. Sur place, les sources proches du dossier au parquet de grande instance de Beni indiquent que les enquêtes sont en cours pour mettre la main sur tous les évadés. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Une personne qui s'est fait passer pour un colonel de l'armée terrorise la population à Idi Sud. Nous sommes au Sud Kivu. Selon un activiste des droits humains, en début de semaine, le présumé colonel natif de l'île est venu dans un village du groupement Nyakalengwa. Il vient souvent sur l'île à travers des pirogues et à la fois dernière, il a surpris un infirmier en poste à un centre de santé à Nyakalengwa et il est venu en pleine nuit à déclarer être venu avec un malade en demandant qu'on ouvre pour lui. Arrivé à l'intérieur, il s'en est pris à l'infirmier titulaire et aux autres agents de santé et malades rencontrés dedans. Il a fini par casser des vitres du centre de santé construit par le gouvernement congolais avec l'aide d'une ONG internationale. Depuis lors, les agents de santé de Nyalukenga craignent pour leur sécurité. Les défenseurs des droits humains et membres de la société civile, Albert Siniabuguma, témoignent et demandent plus de sécurité pour la population à Idui.
Nous, comme organisation de la société civile, nous voudrions demander aux autorités que la sécurité de ces personnels soignants au sein de la structure soit assurée, mais aussi les malades et la population, parce que selon les dires, les personnels commencent à dire non, ils vont quitter et ils vont laisser la structure. Mais aussi nous demandons l'État congolais à réhabiliter, à construire cette structure congolaise, et cette structure sanitaire il y a à peine 2 ans, en 2018, par l'INOPS. Mais on se demande si l'État peut continuer à construire des structures sanitaires, mais curieusement, un monsieur qui s'appelle un colonel de l'armée vient aussi démolir. Et nous, comme organisation de la société civile, nous demandons à sa hiérarchie, s'il est réellement colonel, de nous dire s'il est réellement colonel ou bien parce qu'un militaire de l'armée ne peut pas faire ce qu'il a fait.
À Kalemie, dans la province du Tanganyika, le commandement provincial de la police nationale a procédé ce vendredi à la signature de la déclaration d'engagement à la suite à la lutte contre les violences sexuelles. La cérémonie organisée par la police de la MONUSCO s'est déroulée au quartier général de la MONUSCO en présence du chef des bureaux de Kalemie, compte rendu de François-Xavier Mibé.
Je m'engage d'abord moi-même.
Ils ont été une douzaine d'officiers de la police nationale congolaise à prendre part à la cérémonie pour témoigner de leur engagement du commandement de la PNC à la lutte contre les violences sexuelles. La cérémonie a regroupé le chef de bureau de Kalemie et des responsables des sections de la MONUSCO, dont le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Le chef de bureau de la MONUSCO ad intérim, Léonidas Nkingiye.
Tant que la MONUSCO est encore au Tanganyika, nous sommes ici pour accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo, donc pour appuyer les services techniques, chacun dans son secteur.
Le commissaire provincial de la PNC a pris la parole pour remercier la MONUSCO de l'appui que bénéficie la PNC pour sa professionnalisation. Le général Jean-Yves Mukaya a fait remarquer que les changements qualitatifs observés dans sa structure sont les résultats obtenus grâce au partenariat PNC MONUSCO dans les Tanganyika.
La plupart des policiers sont maintenant à niveau, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de les exécuter.
La cérémonie simple mais solennelle a permis également aux fonctionnaires de la police de la MONUSCO, chargés des violences sexuelles basées sur le genre, de rappeler les grandes lignes du plan d'action 2019-2021 de la PNC dans les domaines de la lutte contre les violences sexuelles et l'appui de la police de la MONUSCO en la matière. Kalemi, François Djabemi, Radio Okapi.
L'ONG Africa Mani vient d'installer une paillote de la paix à Minova. Nous sommes à 54 km de la ville de Goma, mais dans les territoires décalés, dans la province du Sud Kivu. Le but est d'avoir un noyau de concertation où la population peut se retrouver et se parler de leurs problèmes et comment le résoudre en se proposant des pistes et des solutions. L'initiative est de l'Action solidaire pour le développement intégré SOPDI, une ONG beaucoup plus versée dans le domaine agricole et élevage qui a fait un constat sur les difficultés que connaissent la population, entre autres les conflits fonciers, les conflits d'identité et l'exploitation des ressources naturelles. Alors, pendant 3 jours consécutifs du jeudi au samedi 28 novembre, en interaction avec la population, ils ont réfléchi et diagnostiqué quelques problèmes qui gangrènent le développement de la contrée. Comme l'explique Monsieur Malama Sakasomo, coordonnateur national de Africa Mani, au micro de Mathieu Ilunga Chamboui.
Avec la population, nous avons pu épingler, diagnostiquer et identifier d'abord le problème des conflits fonciers, conflits identitaires, de conflits d'exploitation minière et autres choses. Pendant 3 jours, on a travaillé avec la population où nous sommes aboutis à créer une paillote de paix. Une paillote de paix pourquoi? Vous savez, la paillote symbolise d'abord une couverture protection pour tout le monde. Mais aussi, paillote, c'est rassembler les gens ensemble, réfléchir ensemble sur la paix et chacun va donner sa contribution, chacun va amener ce problème et ensemble pouvoir y trouver solution. Et c'est dans cette période même que régulièrement Africa Amani va intervenir, revenir appuyer la population du Sud Kivu pour la pacification de cette entité. Ce qui a été positif, la population a été beaucoup plus intéressée parce que nous sommes arrivés à atteindre même le président des groupes de démobilisés. De venir, nous avons eu un échange fructueux avec eux. Nous avons fait une cartographie de points chauds et voir comment atteindre ces points chauds et les sensibiliser à venir eux-mêmes réintégrer la communauté. Nous avons demandé à ce que les enfants même du Sud Kivu se désolidarisent d'avec les groupes armés. Comme ça, tous, on va développer le Sud Kivu.
19h08 dans la province de la Tchopo, où le gouverneur des provinces salue l'apport du Royaume de Belgique dans la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de la Tchopo. Maître Louis-Marie Walelou Fungula a manifesté ses sentiments hier au cours d'une rencontre avec le ministre conseiller à l'ambassade du Royaume de Belgique à Kinshasa en mission dans la province de la Tchopo. Jacques Moukonkolé.
La mission du diplomate belge a consisté notamment à apprécier les activités réalisées par l'Agence belge de développement Enabel dans la province de la Tchopo. Le ministre et conseiller s'est rendu également compte de la dégradation quasiment totale des infrastructures construites par les Belges pendant la colonisation dans cette entité, notamment les hôpitaux, les routes, les écoles, l'INERA ainsi que le barrage hydroélectrique de la Tchopo. À propos justement de cette infrastructure, elle est en mal de fonctionnement. Sa capacité de production est réduite actuellement à moins de 2 mégawatts, alors que le besoin de la ville en électricité en est plus de 40. En vue de pallier ce déficit, le Royaume de Belgique a débloqué une enveloppe de 3 millions d'euros, d'où la satisfaction du gouverneur des provinces, Louis-Marie Walé-Lufungula.
Toute la population de Kisangani applaudit les derniers financements par la Belgique de 3 millions d'euros pour la réhabilitation de ce barrage, en attendant bien sûr que la Belgique ou d'autres partenaires accèdent à notre demande de construction d'un nouveau barrage pour booster l'industrialisation de la province.
Tout en prenant bonne note de ses doléances, Stéphane Michel, le diplomate belge, rassure l'autorité provinciale de la contribution efficace de la Belgique dans plusieurs secteurs dans la Tchopo. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
À Beni au Nord Kivu, c'est tard dans la soirée d'hier samedi que s'est clôturée la première édition du Forum agricole de Beni qui a débuté le jeudi dernier. Plus de 250 organisations œuvrant dans le domaine d'agriculture, pêche et élevage ont participé à ce forum qui a réuni les acteurs du domaine de toute la partie Grand Nord de la province. Ce fut une satisfaction pour les organisateurs, mais surtout pour le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, accompagné du ministre provincial de l'Industrie, Petites et Moyennes Entreprises, qui a promis s'investir personnellement pour accompagner les initiatives de secteur de sa tutelle. Madame Sheila Hassan, ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage du Nord Kivu, est ici au micro de Marc Marofimbo.
Nous nous sommes rendus compte que, à part tout ce que nous vivons comme problème réel, massacre, agression par-ci par-là, il y a aussi de notre côté les gens qui sont en train de faire des exploits dans le cadre de la production agricole, qui est un secteur poumon de la vie humaine. Avec l'agriculture, il y a la santé, il y a l'économie, il y a le social, il y a beaucoup de choses qui interviennent dedans. En tant que ministère de l'agriculture, qui est le ministère de tutelle, nous sommes prêts à vous accompagner. Bien sûr, nous avons aussi beaucoup de difficultés, mais là où nous pourrons, nous serons prêts à vous accompagner. Et je demanderai aux partenaires de continuer ainsi. Comme je l'ai dit dans la salle, sans partenariat, public-privé, public-public, privé-privé, on ne peut pas aboutir. Donc nous avons le devoir de nous tenir tous main dans la main pour l'avancement de notre province et surtout dans le cadre agricole, parce que c'est de l'agriculture que nous sommes en train de parler maintenant.
C'est une parodie de justice en cours bien montée, mais ainsi a dénoncé Monsieur Jean-Claude Roger après la condamnation de son épouse Monique Guesquès dans l'affaire l'opposant à Vlisco. En fait, dans cette affaire, madame a été condamnée à une peine de 6 mois de réclusion et à une amende par le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Pour Jean-Claude Roger, il s'agit là d'une condamnation injuste qui porte atteinte à la dignité de la femme. Il a dit au cours d'une conférence de presse animée ce mercredi 28 novembre ici à Kinshasa. À cet effet, Jean-Claude Roger en appelle non seulement à toutes les ONG de défense des droits de l'homme, mais aussi à l'intervention personnelle du chef de l'État pour redorer l'image ternie de cette dame ex-gérante de Vlisco. On l'écoute au micro déjà.
Le ministère public a lui-même déclaré qu'après une année d'instruction au Tripé Gombe, je ne trouve aucun élément à charge de Mme Monique Guesquès dans cette pièce que j'ai compulsée. Et à notre grande surprise, les juges passent fi à la déclaration du ministère public et décident de condamner une femme innocente. À ma grande surprise, le montant du manquant de pagne dont fait cas Vlisco représente exactement le montant du décompte final de Mme Monique Guesquès. Je sollicite, en tant que père de famille, l'implication de toutes les femmes congolaises. Je sollicite l'intervention du président de la République, magistrat suprême de la République démocratique du Congo. Nous alertons toutes les structures et les institutions de défense de droits de l'homme et de la femme pour le mal qui a été fait à cette femme. Je vous appelle solennellement à prendre fait et cause pour ce simulacre de justice et ce parodie de verdict qui a été rendu en violation des droits de Mme Monique Guesquès.
Rappelons que Mme Monique Guesquès, ex-gérante de Vlisco RDC, a été inculpée pour une affaire de disparition de 13 000 pagnes dont la valeur est estimée à plus ou moins 600 000 dollars américains. L'inhumation le 17 novembre dernier en Angleterre des syndicats de Colo, l'homme d'affaires et opposant congolais décédé le 29 octobre dernier à Dubaï à la suite d'un accident sous-marin n'est que provisoire. Bientôt, il se reposera pour l'éternité en Banzangungu dans la province du Congo central, près de ses aïeux. C'est ce qu'a déclaré Alphonse Mangiou, représentant la famille biologique de feu syndicat de Colo. C'était à l'issue d'une messe d'action des grâces en sa mémoire dans la paroisse Sainte-Thérèse de Banzangungu sur demande de la famille de Colo. Au nom de toute la famille, Alphonse Mangiou a lancé un message de gratitude partout à travers le monde où des manifestations ont été organisées en mémoire des syndicats d'Okolo. Nana plus riche Mambou.
Si Sindika Dokolo a été enterré en Angleterre, son pays résidentiel, ce n'est que pour des contraintes dues à la pandémie de COVID-19. En harmonie avec son épouse Isabelle Dos Santos, bientôt sa dépouille sera rapatriée en RDC, son pays d'origine. Alphonse Mangiou, représentant de la famille Dokolo.
Nous nous sommes accordés pour que dès que possible, il vienne en reposer éternellement en Banzangungu, comme il le souhaitait lui-même, afin d'y être enterré à côté de son père.
Dans l'Eucharistie, le vicaire général du diocèse de Matadi, Jérôme de Pindi, a invité la jeunesse de la RDC à emboîter les pas à Sindika Dokolo, car d'après lui, cet illustre disparu était caractérisé par la sympathie et la générosité. Il était un homme très engagé pour l'essor de son pays, le Congo. Signalons que plusieurs personnalités ont assisté à cette rencontre, notamment le gouverneur Atuma Tubwana du Congo central, Jean-Claude Mvoemba, le numéro 1 de l'Assemblée provinciale de cette province, les autorités coutumières, familles, ainsi que amis et connaissances. De Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au moins 43 fermiers ont été tués par Boko Haram samedi 28 novembre dans le nord-est du Nigeria, alors que les habitants de la région se rendaient aux urnes pour élire leurs représentants et conseillers locaux. Ce drame est donc venu ternir l'image, le premier scrutin depuis 13 ans dans cette région secouée par une insurrection djihadiste qui a fait 36 000 morts et 2 millions de déplacés depuis 2019. Le pays entier est blessé par ces assassinats insensés, a déclaré samedi soir le président nigérian Muhammadu Buhari, qui condamne le meurtre de ces agriculteurs dévoués à leur travail par des terroristes. Au petit matin, ce dimanche 29 novembre, le gouverneur de l'État de Borno a assisté à l'enterrement des fermiers assassinés samedi dans leur champ par les hommes du groupe Boko Haram.
L'invité.
C'est le secrétaire exécutif du Grand au Kasaï central, Albert Kyungu, revient sur les ateliers organisés par cette plateforme à l'intention de la jeunesse sur la citoyenneté responsable avec l'appui de l'Institut international républicain. Selon lui, cette initiative vise à outiller et encadrer les jeunes pour qu'ils jouent un rôle important dans le développement de la société. Albert Kyungu s'entretient avec François Kadima.
Monsieur Albert Kyungu, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Pourquoi la question de la citoyenneté responsable intéresse les Krong?
Les Krong est interpellé par l'essor de la jeunesse. Ainsi, depuis un temps, nous déployons plusieurs initiatives dans le sens d'encadrer et de renforcer la jeunesse. L'initiative que nous avons lancée maintenant trouve son fondement dans le fait que nous déplorons tous l'agir de la jeunesse. Nous déplorons tous certaines attitudes et comportements. Et tous nous sommes prêt à condamner, mais on ne fournit pas assez d'efforts pour encadrer, pour outiller, pour équiper suffisamment ces jeunes pour qu'ils jouent leur rôle dans la société. C'est face à ces constats que nous avons voulu renforcer les organisations des jeunes en éducation civique pour promouvoir une citoyenneté responsable. Nous avons un renforcement technique, nous avons des formations que nous donnons, nous aurons un renforcement en matériel et donc nous allons renforcer les jeunes avec des petits matériels aratoires d'assainissement de leur milieu. Nous allons favoriser les dialogues entre les autorités et les jeunes, entre les élus et les jeunes, le tout pour permettre aux jeunes de jouer efficacement leur rôle, d'interagir dans la gouvernance locale, dans les ETD, apporter leurs contributions. Donc, la contribution de la jeunesse soit plutôt positive. Donc, on ne veut plus la jeunesse qui va incendier, qui va céder à des chantages, qui va céder des vendeurs de chimères, mais une jeunesse éclairée.
Vous avez ciblé la jeunesse. Nous sommes au Kasaï central où il y a 5 territoires en dehors de nos 5 communes de la ville de Kananga. Avez-vous pris des précautions pour que toute la jeunesse de la province soit touchée par ce message?
Ah oui, déjà, l'action est limitée dans les temps et dans l'espace, les moyens également limités. Dans un premier temps, nous allons nous focaliser dans la ville de Kananga et même là encore, nous avons ciblé quelques ETD. Ça ne sera pas toutes les ETD. Nous commençons d'abord une action que nous voulons pilote et avec la suite les évaluations, on verra comment étendre. Donc nous allons focaliser l'action ou la campagne dans quelques ETD. Nous avons notamment la commune de Nganza, la commune de Kananga et la commune de Lukonga. En dehors de ça, il est prévu des animations radiophoniques, des sensibilisations dans les médias et donc de façon indirecte, beaucoup d'autres jeunes seront saisis. Mais pour l'instant, nous focalisons l'activité avec le moyen pour 3 mois dans un premier temps, dans les 3 ETD de la ville de Kananga, là où nous voulons actionner les jeunes en citoyens responsables.
Alors, pour la première étape, vous avez clôturé. Qu'est-ce qui va suivre?
Justement, le premier atelier s'est clôturé aujourd'hui. Et là, donc la série...
Avec les jeunes de Nganza.
Avec les jeunes de Nganza. Donc, les 25 délégués de 25 organisations sont des jeunes. Et donc, par principe, nous ne travaillons pas avec des individus. Nous travaillons avec les organisations des jeunes. Donc, nous avons outillé 25 organisations des jeunes dans la commune d'Enganza pour le premier pas. Et donc, avant la fin de la semaine, nous faisons le même travail dans la commune de Lukonga, là où nous allons encore outiller, renforcer, former 25 délégués des organisations des jeunes. Donc, sur la même matière, la lutte contre la pandémie, les mesures, gestes barrières obligent. On n'a pas eu la facilité de réunir plusieurs jeunes dans une même salle. Les exigences ont fait que nous puissions dissocier comme ça. Et aussi la proximité. Nous voulons que ces activités commencent dans les entités où résident les jeunes pour créer déjà une dynamique qu'on sente, qu'il y a quelque chose qui se passe chez nous et ça interpelle et les jeunes et les autorités.
Vous attendez à quels résultats? C'est vrai que vous parlez d'une citoyenneté responsable. Vous direz que les jeunes s'impliquent dans la gestion de la chose publique. Serait quoi réellement ce que vous voulez atteindre?
Alors, ce que nous voulons atteindre concrètement, c'est la participation citoyenne responsable des jeunes à la gouvernance locale et au développement de leurs entités. Et donc, on accuse les jeunes qui sont à l'aide, qui ne font rien, ils ne contribuent pas. Pourtant, en développement, nous connaissons que la jeunesse, c'est vraiment les dividendes que nous pouvons capitaliser pour booster le développement de nos entités. Nous voulons que la force de la jeunesse soit canalisée. Et quelle jeunesse? C'est seulement la jeunesse qui est encadrée, qui est formée, qui est bien éduquée, qui comprend ses droits et ses obligations, qui joue à fond sa partition, donc qui accomplit ses responsabilités citoyennes. Et donc, c'est comme ça que nous voulons apporter une contribution dans ce que la jeunesse doit faire pour participer à la gestion de son entité locale, donc de son ETD, les actions qu'elle peut initier, c'est que là où elle peut contribuer pour le développement. Bon, bref, que les jeunes participent de façon citoyenne, éclairée et responsable à la bonne marche, à l'assainissement et à la gouvernance locale.
Monsieur Abakungu, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.